Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounel.
Bonjour à tous. Défendre les femmes à tous les niveaux, le CIDFF est une association qui s'occupe des femmes. Et je reçois ici Aline Fauchère.
Bonjour.
Bonjour Aline, qui est présidente de ce CIDFF à Montpellier, Hérault.
À l'Hérault, dans l'Hérault, puisque c'est une association départementale.
D'accord. Alors, j'ai voulu faire cette émission parce que je me rappelle qu'il y a une dizaine d'années, une copine de mes fils disait « Oh, le féminisme, c'est fini, on a tout gagné, etc. Bon, c'est un combat dépassé, c'est pas peine de s'exciter. » Et pourtant, c'était une jeune femme cultivée. Et donc, je m'aperçois qu'il faut informer les gens parce que, apparemment, c'est pas gagné. Alors, on voit la situation en Afghanistan, évidemment, ou en Iran, mais il n'y a pas que ça.
Loin de là.
Alors, le CIDFF, est-ce que vous pouvez d'abord le présenter ?
Oui, donc c'est une association qui a fêté ses 40 ans en 2022, qui fait partie d'un réseau national qui lui-même a 50 ans et dont la mission est de favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes et l'émancipation, l'autonomie des femmes. Dans le département de l'Hérault, donc le nom est imprononçable, mais ça dit donc centre d'information sur les droits des femmes et des familles. C'est le nom de notre CIDF comme celui de 100 CIDF en France, puisque nous sommes adhérents d'une association nationale qui regroupe des CIDF partout sur le territoire et outre-mer. Notre mission dans l'Hérault, elle se décline sur l'ensemble du département parce que, contrairement à ce que disait cette personne dont vous parliez à l'instant, le combat n'est pas gagné.
Oh non.
Et sans aller jusque aux extrémités de l'enfermement des femmes, de la mise à mort des femmes qu'on voit en Afghanistan et en Iran, pour ne citer que ces deux pays, si les droits sont acquis dans nos textes juridiques, mais depuis peu de temps, pour autant la réalité est bien plus contrastée. Et oui, c'est pour ça aussi que nous avons des points d'information partout sur le territoire. C'est important d'aller au plus près des femmes qui sont éloignées de l'information sur leurs droits, parce que c'est quand on connaît ses droits qu'on peut les faire valoir.
Alors effectivement, ce que vous dites, c'est que c'est récent, tout ce qu'on a acquis. Moi, je me rappelle que quand j'étais adolescente, ça remonte à un certain temps, les femmes n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation du mari. Elles n'avaient pas le droit de travailler sans l'autorisation du mari. Conclusion, il valait mieux ne pas être mariée pour avoir un peu de liberté. Mais alors la question, j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit en vous écoutant. Est-ce que votre mandat n'est pas trop large ? Parce que vous vous occupez de beaucoup de choses ? Ça, c'est la première question. Bon, on va peut-être s'arrêter là, puis je poserai la deuxième après. Ça sera plus simple.
Alors, vous avez raison de parler de la largeur du mandat. Moi, je dirais la complexité. On s'est rendu compte dans les CIDF, au départ, on était sur l'idée, peut-être un peu naïve, qu'à partir du moment où les femmes connaissaient leurs droits, elles allaient pouvoir les faire exister et obtenir cette égalité. Sauf que on s'est rendu compte très rapidement que connaître ses droits, c'est bien, mais par exemple, une femme qui divorce à 50 ans, qui n'a jamais travaillé, qu'elle connaisse ses droits sur le divorce, c'est bien. En même temps, qu'elle ait une vie décente alors qu'elle n'a jamais travaillé, ça devient très compliqué. On s'est penché donc sur l'accès à l'emploi des femmes, parce que c'est la garantie de leur liberté, de leur autonomie. Et sur la question des violences faites aux femmes, connaître ses droits, c'est bien, mais quand on est détruite psychiquement et parfois physiquement, on n'est pas en mesure de les faire valoir. Donc retrouver l'estime de soi, retrouver la confiance en soi, c'est aussi du soutien psychologique qu'on a mis en place. Ce sont des moyens pour arriver à l'égalité. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actions qui sont menées par le CIDF, mais elles sont toutes au service d'une même mission, qui est faire advenir cette égalité.
Oui, parce qu'il y a l'aspect connaître ses droits, puis en même temps, il y a l'aspect supporter une situation. Quand on divorce, effectivement, avec des enfants qu'on ne travaille pas, il y a une forme de panique. Et je suppose que ces femmes, elles ont besoin qu'on les aide, pas seulement en connaissant les droits, mais en les soutenant, en les aidant à trouver des solutions.
Alors, on a une mission aussi d'accompagnement. Vous avez raison de souligner que l'information ne suffit pas, et on voit bien, même chez nos juristes qui ont pour mission d'informer, à quel point il est important que les personnes puissent revenir. Quelquefois, le langage juridique est tellement complexe qu'elles ont du mal à l'assimiler, puis elles sont, comme vous dites, paniquées. Quand on est paniqué, ouais, on a du mal à assimiler un certain nombre de concepts avec lesquels on n'est pas familiarisé. Donc la mission d'accompagnement est importante aussi, même si, alors oui, on est pour une approche globale, mais pour autant, on ne fait pas tout. Par exemple, le CIDF n'est pas compétent et ne souhaite pas le devenir sur les questions d'hébergement.
Oui. Alors vous les envoyez vers d'autres associations?
Évidemment, on ne travaille pas seul sur un territoire. Un certain nombre d'associations et d'institutions existent. On travaille avec les services sociaux, évidemment, avec d'autres associations féministes comme proches de la nôtre, comme le planning familial, avec les associations qui luttent contre la prostitution. Donc on a un certain nombre de partenaires, et puis des soutiens institutionnels. Nos associations sont directement issues d'une volonté politique. Ça, c'est important de le souligner. Françoise Giroud, secrétaire d'État à la condition féminine en 74, a eu comme mission de développer des centres d'information féminins. C'était le langage de l'époque.
Oui.
Et on est issu, donc, de, même si on se revendique féministe, on est issu d'un féminisme institutionnel. Aujourd'hui, nombre d'associations féministes sont des associations de militantes, souvent extrêmement engagées. Nous, on a une particularité, c'est qu'on est à la fois des militantes, avec un conseil d'administration, des bénévoles, des élus qui militent pour l'égalité, mais aussi une association qui emploie des salariés. Et dans le CIDFF de l'Hérault, nous avons 27 salariés professionnels, dont un certain nombre sont aussi des militantes, et d'autres sont des professionnels tout à fait engagés dans leur travail, mais pour autant peut-être pas toujours des militantes pour les grandes manifestations du 8 mars, qui n'est pas loin d'ailleurs, ou celle du 25 novembre qui est contre les violences faites aux femmes.
Je repense à François Giroud. Son titre, c'était ministre de la condition féminine, parce que à l'époque il y avait une condition féminine. C'était extrêmement condescendant,
et quand on se repenche sur le langage de l'époque, le message à l'époque des centres d'information féminins, c'était: madame, est-ce que vous avez un problème? C'était bon, ça a évolué beaucoup depuis 40 ans, 50 ans même. Yvette Roudy, en 1981, a amené un vent de modernité.
Donc, sous François Mitterrand.
Oui. C'est à ce moment-là que notre CIDFF...
Là, on a d'ailleurs parlé du droit des femmes.
Et là, on est arrivé au droit des femmes. Oui. C'est tout à fait lié à l'arrivée de la gauche au pouvoir. Les présidentes... Alors, le CIDFF de l'Hérault a été créé à l'époque par Myriam Mouchebeuf à Castries, avec un certain nombre de parents d'élèves qui étaient tout à fait des femmes, qui étaient pour la plupart enseignantes et qui étaient attentives aux inégalités entre les femmes et les hommes. Et puis Christiane Delteille a repris le flambeau, la présidence, avec tout ce qu'elle avait travaillé au sein du mouvement Jeunes Femmes sur l'égalité et sur la lutte contre les violences. Et petit à petit, le CIDFF est devenu cette association importante sur le plan départemental, avec toutes ces actions voilà, dont vous avez parlé. Mais la colonne vertébrale, c'est quand même l'information sur les droits. On ne peut pas être un CIDFF si on n'a pas des juristes qui informent tous les publics de façon inconditionnelle, gratuite, sur leurs droits.
Oui, alors vous avez cité le planning familial et puis d'autres associations. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'associations pour le droit des femmes? Est-ce que c'est pas trop éparpillé?
J'aimerais qu'il y en ait trop et qu'on ait plus de travail, mais c'est pas le cas du tout. D'abord, je crois que on ne fait pas doublon parce que chaque association a sa spécificité. Le planning familial est beaucoup plus sur les questions de contraception, de sexualité. Oui. L'Amicale du Nid est sur les questions de prostitution. Mmh. Et hélas, il y a du travail pour toutes. Et je crois que le public sait se repérer parce qu'on a des messages clairs sur ce qu'on peut trouver dans telle ou telle association.
D'accord. Alors, on a cité donc le planning familial qui, au départ, était un mouvement d'origine protestante. Hein, c'était Jeunes Femmes, je crois que ça s'appelait. Ou...
Maternité Heureuse.
Maternité Heureuse. Mmh. Mais Jeunes Femmes, ça devait être autre chose.
Jeunes Femmes, c'est un autre mouvement, oui.
D'accord.
Mais d'obédience protestante. Oui.
Voilà. Alors, je voudrais justement... on connaît l'implication des protestants dans le domaine social, qui est beaucoup plus important que leur faible pourcentage dans la société française, puisque le protestantisme, c'est 2% de la société française, et les associations sont beaucoup plus, enfin, sont d'origine protestante pour un très grand nombre d'entre elles. Alors, pourquoi cet engagement est-ce qu'il y a une spécificité? Est-ce que vous avez réfléchi à ça, ou est-ce que c'est naturel?
Il y a sûrement beaucoup de causes, et je pourrais pas les citer toutes. Pour moi, il y en a... Alors, on parle du protestantisme français.
Oui, bien sûr.
Et européen. Pour moi, il y a une raison qui me paraît très importante, c'est l'accès à l'éducation des femmes. Mmh. Et dans bien le protestantisme, sûr. Eh ben, les femmes lisaient la Bible, voilà. Les jeunes femmes allaient à l'école, au lycée, l'éducation des filles était voulue. Pour, alors, à la fois pour des raisons religieuses, mais aussi cette pensée de l'autre comme égal. Je crois que ça, c'est une des raisons, parce que quand on a accès à l'éducation, eh bien, on perçoit mieux les inégalités, on peut lutter contre, et puis on a quand même, surtout dans cette région, l'image de Marie Durand, avec le résister oui. à l'injustice. Donc là, c'est sur la question des droits des femmes, mais voilà, je le relierai volontiers à l'éducation. Et en même temps, je suis pas extrêmement optimiste, parce qu'il y a aussi, alors je pense là au mouvement évangélique américain, il y a aussi des reculs très inquiétants, avec des mouvements traditionnalistes où les femmes doivent rester ce que disent les hommes à leur place, c'est-à-dire oui. une place à la maison, une place dominée. Et ces mouvements-là sont forts. Et
sont en progression, en plus.
Ils sont en progression parce qu'ils sont encouragés oui. par ce qu'on appelle des mouvements masculinistes.
Oui, 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 tout à fait.
Qui remettent en question oui. le droit oui. à l'interruption de grossesse et tout simplement à l'égalité.
Qui a pris son essor après le MeToo, justement, après les mouvements féministes. Ces mouvements masculinistes sont... Et alors, donc vous citez très justement le cas des États-Unis, mais en France, est-ce que selon vous, les hommes protestants ont un regard différent sur les mouvements féministes? Est-ce que vous avez senti, est-ce que vous sentez une aide, ou alors au contraire un agacement ou...
Alors, je dirais que pour nous, c'est un féminisme qui veut, qui souhaite embarquer les hommes.
Oui.
Une phrase de Françoise Giroud, c'était « un homme sur deux est une femme ». Mais moi, je dirais « une femme sur deux est un homme ». Et c'est très important que les hommes soient avec nous dans ce combat pour l'égalité, parce que je suis persuadée qu'ils ont tout à y gagner aussi. Alors, ils peuvent avoir peur d'une perte de certains privilèges, mais je crois qu'il faut qu'on arrive à les convaincre qu'ils ont à gagner dans une relation plus égalitaire avec les femmes.
D'ailleurs, le terme de féminisme, moi je le répète souvent quand un garçon me dit « Ah, mais je ne suis pas trop féministe », je dis « féminisme ». Le féminisme, c'est l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Tu peux pas être contre quand même. Et alors à ce moment-là, ah ben oui, dans ce sens-là, je suis d'accord. Il est toujours bon de répéter que le féminisme, dans sa définition, n'implique pas une suprématie féminine, mais implique une revendication d'égalité.
Mais il faut pas oublier que ce mot a d'abord été une insulte.
Oui.
Une injure. Alors, il y a un renouveau des mouvements féministes. Vous citiez MeToo et vous avez raison. Il y a eu un creux de vague quand même et qui rejoint ce que vous disiez en commençant sur tout est acquis, c'est plus la peine de s'occuper des droits des femmes. Mais on s'est rendu compte avec MeToo, on se rend compte tous les jours avec l'affaire Pellico, avec des histoires de harcèlement au travail, avec les inégalités encore entre le travail domestique et l'inégalité entre les hommes et les femmes sur le partage des tâches, sur l'éducation des enfants, que cette égalité n'est pas advenue. Donc je crois que c'est un très beau mot, qui est un mot qui veut dire, qui se réfère à un humanisme, et que... il faut le défendre, comme vous l'avez fait, avec ces jeunes. Mais quand on explique... Que recouvre cette notion? Et on le fait, nous, beaucoup. Je parlais tout à l'heure d'éducation. Ça nous paraît extrêmement important d'intervenir auprès des jeunes, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, pour parler de l'égalité et de la prévention des violences. Parce qu'encore trop de garçons pensent que une fille qui dit non, elle veut dire oui.
Oui,
une
oui.
fille qui porte une jupe, c'est un appel au viol. Donc, c'est important de pouvoir redire quand ça n'est pas dit dans les familles, à l'école, que l'égalité, c'est la règle entre les hommes et les femmes.
Et alors, on a parlé du protestantisme. Est-ce que le christianisme, et est-ce que avant le christianisme, les évangiles, est-ce que pour vous, c'est pro-féministe, anti-féministe ou relativement neutre? Ou alors, vous n'avez pas d'opinion?
Je pense que c'est toujours difficile de faire dire au texte des choses 2000 ans après.
Disons que je peux poser ma question différemment. Est-ce que vous trouvez dans les évangiles matière à encouragement ou au contraire à dire « il faudrait revoir un peu tout ça ».
Je pense que c'est important de relire la place des femmes, mais certains l'ont fait, Delphine Horviller l'a fait, des théologiennes protestantes l'ont
Emmanuelle
fait.
Emmanuelle Sebold l'a fait.
Oui, donc,
d'ailleurs, elle a participé à une interview donc là-dessus.
Donc, je crois que des personnes beaucoup plus qualifiées que moi l'ont fait. Et c'est important que les religions s'autorisent à faire cette relecture et à contextualiser la place des femmes. Il y a 2000 ans, n'était pas à la place des femmes aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Votre association, elle a été créée donc en 1972. Voilà. Est-ce que vous avez constaté un progrès en France? Ou alors, est-ce que, vous l'avez dit, il y a eu le creux de la vague, est-ce que c'est pas un peu le rocher de Sisyphe qu'on pousse et puis qui nous retombe toujours dessus, puis qu'il faut repousser
J'espère que non, qu'il y a des avancées. Alors, ça dépend de la façon dont on regarde, le problème. Il est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à 1972, on reçoit plus de 15 000 femmes chaque année, quand en 72 on en recevait 1000 ou 2000. Ça ne veut pas dire qu'il y ait plus d'inégalités. Pour moi, ça veut dire que la prise de conscience de ces inégalités et cette ouverture de la parole, cette autorisation à en parler, est plus importante. Alors, je ferai un peu le parallèle aussi avec les violences faites aux femmes. On nous a beaucoup dit que pendant le confinement, ces violences avaient explosé. Ce qui est vrai aussi, parce que quand on vit ensemble dans un endroit confiné avec l'inquiétude qui rôde à l'extérieur sur cette maladie, peut exacerber des tensions. Mais je crois aussi que le regard de la société a changé et que les femmes qui sont victimes de violences ou qui pensent qu'il y a une inégalité dans le traitement qu'elles vivent, se sentent autorisées à venir en parler. Donc, je ne dirais pas qu'on a reculé, et puis on a obtenu quand même des choses importantes dans la loi, et on est dans un état de droit et on s'appuie sur la loi. La constitutionnalisation de l'interruption de grossesse, pour moi, c'est extrêmement important, parce qu'on a vu à quel point ça pouvait être remis en question par des gouvernements
aux États-Unis,
autoritaires,
on l'a vu,
aux États-Unis et dans d'autres, dans d'autres pays dits illibéraux. Donc oui, il y a des progrès. Et je crois que il y a aussi une sensibilité plus grande aux inégalités qui font que les femmes se sentent autorisées à venir en parler.
Alors, on va faire une pause musicale. Vous nous avez choisi l'hymne des femmes. Alors, vous pouvez nous dire pourquoi et qui est à l'origine de ce de cet hymne.
Alors, la musique, en fait, a été créée par des prisonniers dans un camp de concentration avec des paroles qui étaient liées à ce qu'ils vivaient. Et la musique a été reprise en 70 par les militantes du MLF. Et ce chant accompagne nos manifestations. Certaines paroles ont été changées récemment par des jeunes militantes parce qu'il y avait des aspects qui ne prenaient pas en compte suffisamment l'ensemble des femmes. Il y avait des termes qui aujourd'hui étaient un peu dépassés, mais le message est toujours clair, c'est qu'il faut continuer à combattre pour cette égalité.
Alors, on écoute cet hymne des femmes et on se retrouve ensuite.
Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir, debout, femmes esclaves. Et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Asservies, humiliées, les femmes, achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées, debout, femmes. Esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées, ils nous ont divisées, les femmes, et de nos sœurs séparées. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes, ensemble, révoltons-nous. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 debout.
Alors, on se retrouve avec Aline pour parler donc de cette lutte des femmes. Donc, sur le plan mondial, donc on a dit une situation extrêmement contrastée. D'un côté, une amélioration, mais d'un autre côté, des aggravations. Alors, pourquoi ça? Est-ce que ça tient à la nature des régimes? Est-ce que ça tient aux religions? Ou est-ce que ça tient au caractère masculin qui... Enfin, c'est peut-être une question un peu compliquée.
Je pense que les guerres sont un moment toujours extrêmement risqué pour les femmes. Et on l'a vu avec l'invasion de l'Ukraine et avec les viols des femmes. On l'avait vu pendant les guerres des Balkans. Et là, ça renvoie, je crois, aux travaux de Françoise Héritier, grande anthropologue qui a travaillé sur la différence entre les sexes, et qui nous montre que au fond en situation de guerre le corps des femmes est un butin pour les hommes, et le viol renvoie à des choses très archaïques. Le viol des guerriers, je me souviens bien, pendant la guerre des Balkans dans les années 90, l'idée qui est fausse, que si des enfants naissaient de ces viols, ce seraient des enfants de l'agresseur. Et que le corps de la femme, au fond, n'est qu'un réceptacle porter l'enfant de l'agresseur. Donc là, on est sur une pensée extrêmement archaïque. Et je crois que les guerres sont malheureusement un puissant accélérateur des violences faites aux femmes. Et le monde actuellement est en guerre dans nombre d'endroits.
Et des pays qui sont civilisés et qui se trouvent plongés dans des périodes difficiles, cet archaïsme, je vais y arriver, remonte en fait.
Oui. Alors je l'ai dit pour l'Ukraine.
Oui.
Les femmes iraniennes qui militent pour leur liberté, les femmes en prison, une façon de les réduire, c'est l'agression sexuelle, c'est le viol. Il faut bien savoir que le viol, c'est la destruction psychique de la personne, quelquefois physique aussi, parce qu'il y a un certain nombre de viols laissent les femmes détruites. C'est tout le travail du docteur Mukwege
reconstitution
en République démocratique du Congo, de réparation. Mais sans parler de ces moments de guerre, on a aussi toutes les mutilations sexuelles qui existent dans tout l'arc subsaharien, mais aussi en Égypte, mais aussi dans certains pays asiatiques, qui est une façon qu'ont eu les hommes d'asseoir leur pouvoir sur le corps des femmes. Dans la mesure où cette femme est excisée, elle n'ira, l'idée, le fantasme, elle m'appartient,
voilà.
Et elle n'ira pas, elle ne sortira pas de ma famille.
Et il faut rappeler que le viol ou les violences sexuelles ne sont jamais dues à la passion ou à l'amour. C'est dû à une possession, à une forme de possession, d'objectivation du corps de la femme.
Tout à fait, mais là, on se heurte encore à de grandes difficultés. Seulement 1% des viols sont condamnés par la justice.
Oui.
Ça fait partie des violences qui sont les plus difficiles. Alors, d'abord à dire, il faut aussi que celui ou celle qui les écoute au niveau auquel ils doivent être entendus. Ça veut dire la formation des policiers et des gendarmes, des médecins, et puis que la justice poursuive. Donc là, on a encore un travail extrêmement important à faire, et en plus avec le phénomène nouveau de la soumission chimique qu'on a vu avec le procès Pellicot, dont on entend parler récemment autour de Montpellier ces jours-ci avec une autre affaire, et qui sont sûrement très très sous-estimés aujourd'hui.
Oui, oui. Alors, on va être un petit peu plus positive, parce que là, on est dans le noir. On va prendre les victoires du droit des femmes. Alors, est-ce que vous avez des victoires, qu'est-ce que vous pouvez citer comme victoires significatives, historiquement, si on peut dire, sans remonter à Mathusalem?
Alors, bon, déjà, je vous parlais de la constitutionnalisation de l'IVG, et ça, c'est une victoire extrêmement importante. Pour moi, il y a vraiment eu le mouvement MeToo, qui a eu un retentissement mondial, et qui a permis de changer le regard de la société. Pour moi, alors, les victoires, ce sont toutes les petites victoires et qui sont pas si petites que ça, qui sont chaque fois qu'une femme se reconstruit après des violences, c'est une victoire. Chaque fois que la loi est appliquée, c'est une victoire. Mais je crois que plus globalement, la victoire des 10 dernières années pour moi, c'est enfin le regard de la société qui est beaucoup plus moins jugeant, plus ouvert, plus à l'écoute sur ces questions, sur toutes les questions d'égalité.
Alors, le regard de la société, moi, je me souviens de blagues complètement stupides sur les blondes, où c'était toujours des blondes, c'était jamais des blonds. Les connasses, les idiotes, c'est toujours des femmes, c'est jamais des hommes. Est-ce que, d'abord, ça, heureusement, ça a disparu, mais...
Pas complètement.
Pas complètement, d'accord. Bon, ok. Mais est-ce qu'on ne risque pas, alors là c'est une question que certains posent, est-ce qu'on ne risque pas d'aller vers le politiquement correct, c'est-à-dire de ne plus avoir droit de plaisanter comme faisait Coluche, Coluche donc ce comédien, enfin qui rigolait sur les femmes, enfin sur voilà. Est-ce qu'on ne risque pas de
Je pense qu'on en est loin. Je pense qu'on peut plaisanter. Alors plaisanter et humilier, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et parler des femmes en les dévalorisant en permanence, je sais pas si c'est de la plaisanterie ou c'est. Je le relierai au racisme et à l'antisémitisme. On est sur les mêmes registres. Moi, je crois que ce qui est en train de changer, c'est qu'on commence à avoir des femmes qui sont des modèles. On a eu la première femme qui a été major de l'ENA, major de Polytechnique, des femmes qui sont allées dans des métiers qui étaient au départ des métiers d'hommes et qui maintenant investissent les champs du bâtiment, des travaux publics, des métiers dans lesquels elles n'allaient pas du tout. Et je crois que ces femmes qui travaillent avec des hommes plaisantent, mais que les plaisanteries changent de registre. Ils plaisantent ensemble, mais pas au détriment des femmes.
Alors, c'est amusant parce que vous citez justement les femmes qui prennent des métiers dits d'hommes, mais on vient d'avoir une réflexion qui vient d'être diffusée très récemment avec Florence Blondon, qui, à thème et anathème, donc ici à ce micro, qui souhaitait que des hommes prennent des métiers de femmes et qui se rapportaient au modèle de Joseph de la Bible, les deux Joseph, Joseph fils de Jacob et Joseph époux de Marie. Alors ça, c'était une petite parenthèse. Et alors, comment jugez-vous le fait que des femmes, donc on en a parlé, votent ou soutiennent des régimes qui les oppressent? Comment des femmes peuvent-elles voter pour Trump, par exemple, avec ses discours complètement antiféministes?
C'est, j'avoue, un grand mystère, un grand mystère pour moi. Je crois que quand on est dans des positions dominées, eh bien parfois on attend du dominant, du maître, que il vous libère. Le titre d'un ouvrage d'historienne qui est sorti il y a un an ou deux reprend un slogan de mai 68, enfin des femmes, du mouvement des femmes en 68, qui dit « Ne nous libérez pas ». On s'en charge.
Ça, et c'est pas mal, ça.
Ne nous libérez pas, on s'en charge, montre bien l'autonomie des femmes, mais elles se conquièrent, cette autonomie. Donc je pense qu'un certain nombre de femmes américaines qui ont voté pour Trump sont des femmes qui croient ce discours extrêmement simpliste que si elles sont dans la pauvreté, c'est la faute des Mexicains. Je crois qu'il y a vraiment... Là, une question aussi qui est liée à l'éducation et à la capacité à analyser, à penser la complexité du monde.
Oui, je me rappelle, en vous écoutant, je me rappelle ces femmes de l'âge de ma mère ou de mes belles-mères, j'en ai eu deux, qui disaient que la femme devait rester à sa place, que travailler ou faire, c'était, voilà. Et on reliait ça à une forme d'autorité divine, je sais pas où elles avaient trouvé ça.
Oui, mais bon, alors ça, c'est vraiment issu du 19e, parce qu'en fait, les femmes ont travaillé de tout temps, oui. Les femmes travaillaient au champ, bien pendant sûr. La guerre de 14, les femmes ont fait tourner l'économie, donc le 19e a renvoyé les femmes bourgeoises à la sphère domestique, mais pour autant, je pense aux esclaves noires américaines, elles travaillaient dans les champs.
Oui, bien sûr.
Donc dire que le travail est réservé aux hommes, c'est méconnaître toute l'histoire et s'arrêter simplement à une petite partie des rapports entre les femmes et les hommes.
Alors, il nous reste 3 minutes. Je voudrais qu'on parle maintenant de votre conférence. Vous faites une conférence le 15 avril.
Oui.
Alors, où ça d'abord ?
Au temple à la rue Maguelone.
Au temple rue Maguelone.
Je suis pas tout à fait sûre de l'heure. Je crois que c'est 18h. Mais à vérifier, Florence Blondon, il y a un moment cultuel avec Florence Blondon. Je parle pendant 1 heure et puis un moment de musique qui suivra. Je crois que c'est 18h, 19h, mais peut-être...
On va le réannoncer sur les ondes et puis il suffit de regarder la feuille d'annonce aussi de l'EPUDF. Ou de se renseigner. Je suppose que vous faites des annonces dans la presse locale de cette conférence.
Ça, je crois que c'est Florence Blondon qui s'en occupe, mais j'ai reçu hier la feuille de présentation de Pâques et dans lequel c'est annoncé. Donc,
d'accord. Alors maintenant, vous pouvez nous en parler. Donc le titre, c'est le passage de l'emprise à la liberté, c'est ça?
Oui. Alors ça fait référence à un point dont j'ai déjà parlé ici, qui est comment on peut, au CIDF, accompagner les femmes qui sont dans une relation d'emprise et qui vivent des violences vers leur émancipation. Donc c'est tout ce processus dont je vais parler. Je trouve que c'est un beau thème pour Pâques.
Et vous attendez beaucoup de monde ?
J'espère. Alors pour les 3 moments de cette rencontre, et j'espère que le temple sera rempli et viendra admirer le bel orgue qui sera presque terminé.
Ah oui. Oui, ça c'est un autre aspect des choses. Eh bien, Aline, je vous remercie. Donc je rappelle votre conférence le 15 avril, donc en fin d'après-midi, vers 18h, 19h, il faut suivre les informations. Et je remercie nos auditeurs à qui je dis à la semaine prochaine. Au revoir.
Merci.
Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounel.